VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13 heures à Dakar, 14 heures à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Corne de l'Afrique, en Éthiopie, 10 morts et 1 blessé. Tel est le bilan de l'explosion d'un engin piégé ce mercredi au passage de minibus dans une zone de l'ouest du pays en proie à des violences intercommunautaires. Le véhicule se déplaçait sur une route située à la frontière entre les régions d'Oromia et de Benishangoul-Gumuz quand la déflagration s'est produite. La police a ouvert une enquête pour déterminer les motifs de l'attaque et en identifier les auteurs. Ces derniers mois, la frontière entre les régions d'Oromia et de Benishangoul-Gumuz a été le théâtre de violences intercommunautaires qui ont fait des dizaines de morts et provoquer le déplacement de près de 100 000 personnes, selon Addis Abeba. Des affrontements du même type ont éclaté dans d'autres zones du pays, d'où l'appel du nouveau Premier ministre réformateur Abiy Ahmed en faveur de la paix et la concorde nationale. Et élections en Afrique maintenant. À Madagascar, les électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui pour le second tour d'une élection présidentielle sur fond de règlement de comptes personnels entre les deux hommes forts de la vie politique de la grande île de l'océan Indien, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, deux ex-chefs de l'État déterminés à retrouver le pouvoir. Lors du premier tour, le 7 novembre, Andry Rajoelina, 44 ans, a pris un léger avantage en recueillant 39,23% des suffrages contre 35,35% à Marc Ravalomanana, 69 ans. La forte personnalité de ces deux leaders et surtout leurs moyens financiers, apparemment sans limite, ont balayé les 34 autres aspirants à la magistrature suprême. Élection en RDC, la campagne électorale pour les scrutins du 23 décembre, suit son cours. À Chikapao-Kassai, région du centre du pays, une personne a été tuée hier en marge d'une manifestation contre la venue d'Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat à la présidence, porte-étendard de la coalition au pouvoir. Plus de détails avec Ekia Badou.
Emmanuel Ramazani Shadary a dû annuler sa visite à Chikapa, chef-lieu du Kassai. Le siège du PPRD, le parti au pouvoir, a été saccagé. Des militaires sont venus en renfort de la police débordée pour disperser des centaines de jeunes qui scandaient des chants hostiles. Le candidat du Front commun pour le Congo a prévu de clôturer sa campagne vendredi au stade des Martyrs à Kinshasa. Déjà dimanche, à Chikapa, au moins une personne a été tuée dans des heurts entre des partisans du pouvoir et ceux de l'opposition à l'occasion de la venue de Félix Tshisekedi, un candidat de l'opposition. Le Kassai est le fief de l'UDPS dont il est le président. Monsieur Tshisekedi se trouvait hier dans le Bas-Congo et son entourage affirme travailler sur les derniers détails avant son arrivée prochaine à Kinshasa. Le candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayoulou, sera le premier parmi les principaux candidats à revenir dans la capitale après plusieurs jours à l'intérieur du pays. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, a annoncé le déploiement de quelques 40 000 observateurs nationaux sur l'ensemble du territoire le 23 décembre prochain.
RDC toujours à 4 jours des élections présidentielles, législatives et provinciales. Un grand nombre d'organisations locales préparent le déploiement de milliers d'observateurs sur le terrain. Mais en plus des observateurs dans les bureaux de vote et autres lieux de rassemblement, la CIMOCEL, la synergie des missions d'observation citoyenne, compte mettre en place une Situation Room, un centre de contrôle des élections en cours, pour suivre en détail le déroulement du vote en coopération avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdourahmane Dia, s'est entretenu avec le chargé de communication de la CIMOCEL, Luc Lourtala.
178 territoires et dans les 178 territoires que compte le pays, nous avons 768 superviseurs territoriaux à raison de 30 superviseurs par territoire. Et donc dans chaque pour l'ensemble du pays, la CIMOCEL va déployer 22 000 observateurs de court terme le jour des scrutins, donc le dimanche.
Et comment est-ce que vous travaillez avec la CENI?
Ben, il faut dire que nous travaillons avec la CENI, c'est la CENI qui donne des accréditations. Et pour le moment, nous pensons que les accréditations ont assez bien marché parce que nous étions jusqu'à hier à 19 638 observateurs accrédités avec quelques dossiers encore qui étaient pendants et pour lesquels on attendait d'avoir les accréditations des OCT. Donc on peut dire déjà à cette proportion que la relation avec la CENI est assez bonne et que bon voilà, c'est pas toujours le beau fixe, mais je crois que la CENI reçoit chaque fois nos recommandations et il y a une collaboration qui est établie entre la CIMONCEL et la CENI.
Et quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés?
Ben le problème, vous savez, déployer une mission de cette taille, c'est un défi logistique déjà assez immense. Il y a des problèmes des communications, il y a des problèmes de déplacement des observateurs qui pour les formations. Et donc, si vous savez que les gens doivent parfois se déplacer pendant 3 jours pour aller suivre une formation, ce qui fait que la stratégie de la CIMONCEL, en fait, sur ce côté, a été d'engager des observateurs qui sont locaux et qui sont implantés sur leur propre territoire. Mais le défi logistique reste quand même très très immense, ne serait-ce que pour le transport des supports de Kinshasa à des provinces et le dispatching. Le défi logistique reste quand même immense.
Est-ce que tous les observateurs sont formés au processus électoral? Est-ce qu'ils comprennent puisqu'il y a de nouveaux outils comme la machine à voter?
Alors, il va de soi qu'on ne peut pas dire à ce stade tous les observateurs sont formés, mais d'ici vendredi, tous les observateurs seront formés.
Luc Loutala, chargé de communication de la CIMONCEL en RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, politique au Togo. La campagne électorale pour les législatives du 20 décembre est terminée depuis mardi minuit. Les Togolais se rendent aux urnes demain jeudi pour des élections boycottées par la principale coalition de l'opposition après plus d'un an de crise politique et des dizaines de manifestations pour exiger le départ du président Fornia Singbe. Les forces armées de sécurité ont voté par anticipation hier pour être disponibles pour sécuriser le vote le jour de l'élection. Burkina Faso, au procès des auteurs présumés du putsch de 2015, l'audition du général Gilbert Diendéré, l'un des présumés cerveaux du coup d'État manqué, a pris fin hier. Pendant près de 2 semaines, le général Diendéré n'a cessé à la barre de clamer son innocence. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré durant plus de 2 décennies, a passé 13 jours à la barre. Du premier jour jusqu'au dernier jour, Golf, comme on le surnomme, a fait savoir qu'il n'est ni le commanditaire, ni le planificateur, sinon l'instigateur du coup d'état de septembre 2015 au Burkina Faso. Selon lui, la hiérarchie militaire devait être à la barre, car elle a soutenu le putsch. L'ancien premier ministre de la transition, le lieutenant-colonel Isaac Zida, que le général Diendéré n'a cessé de charger durant toute son audition, serait le fauteur de troubles. Je voudrais m'indigner du fait que cette situation qui est arrivée, c'est par la volonté d'un homme. Cet homme aujourd'hui n'est pas là, et c'est nous qui souffrons, a déclaré ce mardi le général, parlant de l'ancien premier ministre, aujourd'hui réfugié au Canada. Le général Diendéré déplore cependant les morts. Le 23 septembre 2015, j'ai déclaré que je regrettais beaucoup les morts, les blessés et les dégâts matériels. Je continue de regretter cela, monsieur le président. Je réitère cette demande de pardon au peuple burkinabé, a dit comme dernier mot là-bas, le général Diendéré, Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis pour terminer. À Washington, un juge fédéral américain a reporté le verdict contre l'ancien conseiller du président Donald Trump, Michael Flynn, et ce après avoir exprimé son dégoût envers l'accusé poursuivi pour avoir cherché à dissimuler ses contacts avec des Russes. Les précisions de John Lindon.
L'ancien général de 60 ans avait plaidé coupable fin 2017 d'avoir menti au FBI au sujet de ses conversations avec Sergueï Kislyak, à l'époque ambassadeur de Russie aux États-Unis. Il avait également accepté de coopérer avec la justice. En échange, il n'avait pas été inculpé pour des activités non déclarées de lobbying au service de la Turquie. Début décembre, le procureur spécial Robert Mueller, en charge de l'enquête sur l'ingérence russe, avait loué son aide substantielle et avait recommandé une peine sans détention. Ces appels à la clémence n'ont pas ému le juge Emmett Sullivan du tribunal fédéral de Washington qui a accusé Michael Flynn de trahison. Exprimant son dégoût et son mépris envers l'accusé, le juge Sullivan lui a laissé le choix entre recevoir immédiatement une peine de réclusion potentiellement sévère ou attendre les conclusions de l'enquête de Robert Mueller pour savoir s'il a vraiment collaboré avec les enquêteurs. Il encourt jusqu'à 6 mois de prison.
Merci de votre attention.